Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Grâce à Mzati.
Au sommaire de ce journal, la situation sécuritaire dans la sous-région, particulièrement dans l'est de la RDC, est l'un des points au menu des échanges ce samedi à Brazzaville entre le président Félix Tshisekedi et son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso. Des précisions dans ce journal. Des jeunes venus de l'Uro-Katana, dans les territoires de Kabare au sud Kivu, ont fêté Noël hier avec plus de 300 enfants déplacés du site de Don Bosco Ngangi dans la ville de Goma, au nord Kivu. Notre invité est David Mukebambombo, maire de la ville de Kalemi au Tanganyika. Il revient sur les travaux d'assainissement de la ville de Kalemi en évoquant aussi les difficultés auxquelles il fait face pour assainir cette ville. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par ce tête-à-tête hier samedi à Brazzaville, en République du Congo, entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son hôte, Denis Sassou Nguesso. Selon le compte X de la présidence du Congo, Kinshasa, des sujets d'intérêt commun, notamment liés à l'économie, au climat et à la situation sécuritaire dans la sous-région, particulièrement dans l'est de la RDC, étaient au menu des échanges entre les deux chefs d'État. Au sujet de l'instabilité dans la sous-région, le président Sassou Nguesso a salué les efforts de médiation de son homologue angolais João Lourenço afin de trouver une issue favorable à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC dans le cadre du processus de Luanda. Alain Irung nous donne d'autres détails sur cette rencontre.
Répondant à une question relative au projet commun entre la RDC et le Congo, le président Félix Tshisekedi a salué la bonne évolution des études de faisabilité du projet Pont-Route Rail sur le fleuve Congo. C'est un projet qui est très important à la fois pour les relations entre les deux pays, mais également pour l'intégration régionale et africaine, a-t-il déclaré. Le président Denis Sassou Nguesso est quant à lui revenu sur la prise en compte des richesses naturelles dans le calcul des produits intérieurs bruts des pays africains. Nous pensons que si les PIB des États sont considérés à leur juste valeur, une valeur substantielle, ceci donnera plus de capacité aux États pour emprunter et amener les autres institutions financières à fortement contribuer au développement des États africains, a-t-il fait savoir.
Merci. À vous, Alain Hungmushinj. Sur le terrain au nord Kivu, des violents combats opposent depuis samedi les FARDC rebelles du M23 dans le sud du territoire des Lubero. Après avoir repris samedi le contrôle de la localité de Ndoluma, située à une soixantaine de kilomètres à Lubero centre, chef-lieu du territoire, les FARDC progressent ce dimanche vers la localité stratégique d'Alimbongo qu'ils avaient perdue il y a une semaine. Ce dimanche, les hélicoptères des combats et l'artillerie des FARDC ont pilonné les positions rebelles autour d'Alimbongo. La situation reste étendue dans la zone. Entre-temps, dans les territoires de Beni, toujours au nord Kivu, le bureau administratif de la localité Bapakombe-Pendekali a été incendié par des inconnus dans la nuit du vendredi à ce samedi. C'est dans le groupement Bassoa-Madiwe, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. Des sources administratives dans la région parlent d'une perte énorme car tout a été consumé. Elles annoncent une enquête pour dénicher les auteurs. Guylaine Kassassia nous appelle de Beni.
Selon le chef de la localité Bapakombe Pendekali à Luguma, Mbelema, à Zambie, qui cite le voisin du lieu de drame, c'est vers 21h, heure locale, que les inconnus à bord d'une moto sont arrivés pour mettre les feux au bureau et repartir. Rien n'a pu être sauvé. Ces bâtiments abritaient les bureaux du renseignement, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'état civil. Aucun document n'a été sauvé, regrette le chef de localité. À Luguma, Mbelema, à Zambie, appelle ses administrés à beaucoup de vigilance et surtout la jeunesse à se désolidariser des groupes de pression et autres groupes armés encore visibles dans cette entité et qui mènent des actes de sabotage. Il annonce une enquête pour retrouver les auteurs de cet acte. Pour rappel, la veille de cet incident, ce sont le bureau de la police et de la protection de la femme et de l'enfant, des cantines, ainsi que celui du chef de la localité des Aloya, groupement Bassoa-Madiwe, qui avait également connu les mêmes sorts, toujours du fait d'individus non identifiés. Rien n'a été récupéré aussi de ce bureau qui ont complètement été réduits en cendres. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Par ailleurs, le commandant de la 22e région militaire appelle toute la population du Haut-Katanga et particulièrement celle de Lubumbashi au calme et à vaquer paisiblement ses activités. Cet appel est la suite des différents messages distillés sur les réseaux sociaux causant la psychose au sein de la population. Pour le général Eddie Capen, la ville, tout comme la province, a besoin de la paix. Ainsi, il demande à toute la population de dénoncer tous ceux qui veulent semer le trouble et les désordres et promet de leur barrer la route. On écoute le général Eddie Capen, le commandant de la 22e deuxième région militaire dans cet extrait proposé par Jean Ganduka Bongo.
Soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville pour troubler la sécurité. Évitez donc d'être complice de tous ces gens. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en pagne. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà pourquoi vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, nous n'avons pas besoin de la guerre, nous avons besoin de la paix pour construire les écoles, construire les routes, construire les maisons, construire les hôpitaux, pour construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement de notre pays.
Tous les services de sécurité sont en état d'alerte pour permettre à la population de passer les festivités de fin d'année dans la quiétude. C'est ce qu'a dit vendredi le commandant urbain de la police nationale congolaise de Bounia au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Kapi. Selon le commissaire supérieur Abeli Mwangu, les forces de sécurité seront déployées dans tous les coins chauds, stratégiques et différents quartiers pour protéger la population et ses biens pendant cette période. Il demande à la population de collaborer avec la police. Il ajoute qu'un numéro vert est mis à la disposition des habitants en cas d'urgence sécuritaire. Le commissaire supérieur Abeli Mwangu est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous demandons à la population de bien exploiter les différents types d'alertes. En ce qui concerne les alertes, il y a des sifflets. Il faut parfois alerter par sifflet, par tambour, par alarme, par vuvuzela, comme vous le savez, il y a des cloches. Le numéro vert opérationnel pour la police est celui-ci. 081-10-50-013. Je reprends 081-10-50-013. Et pour le numéro vert de Forces armées de la République démocratique du Congo, c'est 081-065-11-78. Je reprends, 081-065-11-78. Alors, vous pouvez aussi appeler différents numéros des commandants des unités, soit de la police et FADC et des autres services de sécurité, si vous voulez avoir une intervention urgente. Alors, nous demandons à la population que d'éviter aussi les tapages nocturnes. Il y a le tapage, la pollution sonore, et le pétard en cette période.
Comme annonce au sommaire, des jeunes venus de l'Uirukatana dans les territoires du Kabare Sud-Kivu ont fêté hier avec les enfants du site déplacé de Don Bosco Ngangi dans la ville de Goma, au nord Kivu. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Plus Partage un sourire pour associer ces enfants déshérités aux réjouissances relatives à Noël. Chris Mukand a effectué un tour à Don Bosco Ngangi. Voici son reportage.
330 enfants sélectionnés parmi les milliers de ce camp de déplacés situé à la limite du quartier Majengo prennent part à la fête. Jean-Jacques Amani et Crispin sont de la délégation venue de l'Iro.
Je suis venu soutenir les enfants d'ici à Goma. Nous avons pitié d'eux, alors nous sommes venus faire petite fête pour les soutenir et qu'ils puissent manger et qu'ils puissent bien rassasier. Quand je suis passé ici, je me suis senti mal, alors on a dit on peut organiser une fête qui puisse s'amuser, manger et boire. Comme ça, on peut rester avec ses souvenirs et puis ils sont très contents.
Entre partage et pas de danse, l'esprit des jeunes de l'Uro ne désire qu'une chose, le retour de la paix, pour que ses enfants fêtent la prochaine Noël à la maison. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Santé. L'hôpital général de Kwamout, situé dans la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire portant le même nom, vient de réceptionner un lot important de médicaments représentant une valeur de 75 000 dollars américains. Il s'agit d'une dotation du programme de développement du système de santé en faveur des victimes de la milice Mobondo, dont les blessés, les brûlés, les déplacés et autres malades. Cette dotation intervient après les plaidoyers menés par les gouverneurs des provinces du Maïndombe, les Bonko Sokevani, pour venir en aide à ces personnes qui étaient en difficulté pour se faire soigner faute de moyens. Le gouverneur Lebonko Sokevani l'a dit à Irène Mboma Luzolo.
Quand je suis arrivé, j'ai dû amener quand même un soutien tant financier que matériel parce qu'il y avait un grand souci de médicaments à l'hôpital. J'avais fait un plaidoyer auprès des partenaires sanitaires de la province, notamment le PDSS, qui a répondu promptement. Et au moment où je vous parle, hier, un lot de 540 colis, et qui représente une valeur de 75 000 dollars, a été diligenté et puis réceptionné à Kwamoto par la population. Il y avait un petit souci, c'est que il manquait quand même des produits, de médicaments pour pouvoir traiter surtout des brûlures, des gens brûlés, comme vous pouvez comprendre ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire les Mobondo ont pris 30 personnes, ils les ont enfermées dans une case, et puis ils ont mis le feu. Les gens ont été calcinés, alors il y a eu des rescapés, pratiquement 9. Et donc les 9 là sont en train de prendre des sommeils. Bon, il manquait de médicaments, nous avons fait le plaidoyer, les médicaments est arrivé. Mais hormis cela, il y a eu aussi des blessés par balles, et puis d'autres déplacés qui sont là à Kwamoto, qui manquent vraiment de tout, surtout en ce qui concerne les médicaments, pour qu'ils soient pris en charge par l'hôpital.
Et dans la province du Maniema, après plusieurs cris d'alarme et plaidoyer, le centre de santé de Bitoulé bénéficie d'un appui en médicaments et en matériel. Remis par le vice-gouverneur, ces dons du gouvernement provincial vient résoudre le problème de prise en charge des malades de cette partie du Nord Maniema. Le médecin directeur de cette structure sanitaire remercie l'exécutif provincial pour ses gestes. C'est ce qu'il nous dit à Kindu, Florence Kizalonga.
À part les médicaments, ce don du gouvernement provincial est constitué entre autres de lits d'accouchement, lits pour les malades, matelas, lits d'opération et des équipements du laboratoire. Docteur Moïse Lunga Richel fait savoir que cet appui vient sauver la situation de ces centres.
Via les ondes d'Okapi, que je remercie en passant, on avait fait un plaidoyer au niveau de notre gouvernement provincial du Maniema, afin de bien vouloir équiper notre centre et des centres de référence de matériel nécessaire pour permettre une meilleure prise en charge de nos malades. Nous avons reçu du gouvernement provincial des équipements de laboratoire, du bloc opératoire et des médicaments. À cela, nous adressons nos sincères remerciements à notre Son Excellence Monsieur le Gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse et son vice-gouverneur Katisamba Makubuli Corneille pour cet acte salvatrice. À cela, nous invitons aussi toute la population de venir bénéficier d'un traitement de qualité au sein de notre centre de santé de référence.
Vu les difficultés que rencontrent ces centres de santé situés à 60 km de Lubutu, Dr Richel Mouassa continue à faire appel aux partenaires pour d'autres appuis, surtout l'ambulance pour les transports des malades. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Politique. Ensemble pour la République n'a pas réussi à conquérir le pouvoir aux élections de 2023. C'est l'un des points négatifs du bilan des 5 ans du parti politique cher à Moïse Katumbi Tshapwe. C'est ce qui ressort de l'ouverture des activités marquant cet événement dans la province de la Tshopo. Cependant, selon ce parti politique, l'échec connu lors d'échéances électorales sous-indiquées est attribué à la CENI qui avait proclamé les résultats non conformes à la vérité des urnes. Le point avec Jacques Moukonkole.
En dépit de l'échec à la magistrature suprême aux élections de 2023 en RDC, Ensemble pour la République a tout de même produit beaucoup de députés, aussi bien provinciaux que nationaux, se réjouit sa coordinatrice provinciale adjointe. Sans toutefois faiblir, son parti va poursuivre courageusement ses objectifs, affirme Madeleine Kisembo.
D'abord, celui de conquérir, mais démocratiquement, le pouvoir d'État et diriger dans le respect de la Constitution et de loi de la République démocratique du Congo. Nous avons également un objectif, celui de contribuer au renforcement de la démocratie dans notre pays.
Malgré les turbulences politiques que connaît le président du parti, affirme la coordinatrice provinciale adjointe, tous les membres vont se ranger derrière sa vision, celle d'un Congo uni, meilleur et prospère. Et pour matérialiser cette vision, le parti de Moïse Katumbi annonce sa ferme détermination à conquérir le pouvoir en 2028, quelle que soit la commission électorale qui les organisera, souligne-t-elle. Signalons que l'ouverture des activités des 5 ans de ce parti politique a été marquée par une messe d'action de grâce. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, l'opération de démantèlement des zones criminogènes se poursuit. Lancée le 9 décembre, elle vise à lutter contre la délinquance et la criminalité organisée comme le trafic des migrants ou le trafic des drogues. Cette opération a donné lieu à des dizaines d'interpellations et à des expulsions des Sierra Leonais résidant dans la capitale guinéenne, provoquant des tensions entre les deux pays. Mais les procureurs indiquent que cette opération ne cible pas spécifiquement les citoyens et Sierra Leonais.
L'invité.
C'est David Mukeba Mbombo, maire de la ville de Kalemie. Il revient sur les travaux d'assainissement de la ville de Kalemie. Il évoque aussi les difficultés auxquelles il fait face pour assainir cette ville. David Mukeba s'entretient avec notre collègue Paul Mounanga dans le cadre de notre série de reportages sur la problématique de la gestion des déchets dans les villes de la RDC. Suivez.
Monsieur le maire de la ville de Kalemie, David Mukeba Mbombo, bonjour.
Bonjour.
Quid tout d'abord de la gestion des ordures dans la ville de Kalemie?
La mairie de la ville de Kalemie s'occupe de la gestion des immondices dans la ville. C'est-à-dire que l'assainissement de la ville relève de la compétence de la mairie. C'est la mairie qui s'occupe de curage de caniveaux, des évacuations des immondices et les amener au dépotoir ou à la décharge publique. Ainsi, c'est ça notre travail quotidien.
Quelle est la situation actuellement de la salubrité dans la ville de Kalemie?
Nous sommes butés à une difficulté dans la ville de Kalemie parce que nous n'avons aucun engin d'assainissement, la mairie de la ville. Alors, nous sommes en train de travailler manuellement. Donc, nous avons le cantonnage manuel. Et lorsque nous curons le caniveau, on a du mal à évacuer même les immondices parce que on n'a pas le véhicule. Nous sommes obligés de recourir aux particuliers, prendre en location les véhicules des particuliers afin de dégager les immondices sur la ville. Et tout ça, ça demande énormément d'argent dont ne dispose pas la mairie. Nous avons à plus d'une fois recouru auprès de notre autorité hiérarchique qui est la province pour demander que la province nous viennent en secours, nous soutiennent dans l'assainissement de la ville. Que la province nous aide à avoir les outils de travail, les engins de travail, comme c'est le cas à Lubumbashi, à Goma, à Likasi et ailleurs, à Kolwezi. Vous verrez que la mairie est dotée d'engins d'assainissement. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est la grande difficulté que nous avons. Nous réitérons notre demande auprès de notre chef hiérarchique qui est le gouverneur, s'il peut penser à nous doter des engins d'assainissement pour nous permettre d'assainir la ville. Je lance un SOS même aux autorités nationales qui nous suivent. La salubrité, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement la ville, ce n'est pas seulement la province. Même le gouvernement central peut nous venir en aide avec les engins d'assainissement.
Et rendre cette ville de Kalemie propre vous coûte combien par jour?
Nous prenons en location les camions des commerçants et ils nous taxent par jour. On donne un montant par course. En tout cas, ça nous demande beaucoup d'argent. J'ai évalué que par jour, nous devons avoir 3 camions d'évacuation. Et chaque camion doit faire 10 courses. Et les 10 courses, ça fait à peu près 800 000 par camion. Et pour les 3 camions, ça doit nous demander à peu près 3 200 000 pour juste l'évacuation. Par jour. Et la mairie encaisse combien? Et nous payons les chargeurs et les déchargeurs de ces immondices.
La mairie de Kalemie a-t-elle une brigade d'assainissement qui est structurée?
Nous avons une brigade d'assainissement, comme je venais de dire, mais qui travaille manuellement, comme dont nous faisons le cantonnage manuel.
Y a-t-il un endroit qui est bien déterminé pour aller jeter les immondices qui proviennent de la ville?
Oui, notre ville est vaste, nous avons des coins verts où nous avons suffisamment d'espace pour jeter les immondices.
Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que la brigade d'assainissement est sur les routes en train de travailler?
Tout à fait. Ils sont là en train de curer les caniveaux parce qu'il a plu ce vendredi et samedi. Présentement, la brigade est sur le terrain en train de curer les caniveaux et les collecteurs.
Nous voyons que cette brigade se concentre surtout sur le boulevard Lumumba, et pas dans la périphérie de la ville de Kalemie.
Non, comprenez que la mairie englobe les communes. Si vous voyez que le grand travail se fait sur les grandes artères, là c'est la mairie. Mais chaque bourgmestre est habilité à assainir sa commune. Ce n'est pas la brigade de la mairie qui doit entrer dans des communes pour faire le travail de bourgmestre. Chaque bourgmestre est obligé d'assainir sa commune. C'est ainsi que, alors si vous trouvez que dans une commune, ça ne marche pas, là c'est le bourgmestre qui n'a pas travaillé. Mais sinon, la mairie gère et les communes et la ville. Ainsi, chaque bourgmestre doit faire l'assainissement de sa commune et la mairie supervise le tout. Cette ville, c'est une ville côtière, c'est une ville surplombée des collines. Lorsqu'il pleut, toute la boue des collines se jette sur la chaussée et la ville devient très sale. Chaque fois après la pluie, la ville devient très sale. Alors, pour la rendre propre, ça demande de gros moyens. C'est une belle ville au bord du lac. Quand elle est propre, vraiment, ça reflète la beauté de la ville. Mais quand il pleut, si on n'a pas vite dégagé ces immondices, la ville devient invivable.
Monsieur le maire David de Moukeba Mbombo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le maire de la ville de Kalemie a été interrogé par Paul Emunanga. 15h20 à Kinshasa. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Moulima et supervisé par Alain Rung. La mise en onde de Billy Landry Bitou et la présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci de nous avoir écoutés et place à présent à l'émission Okapi Sport avec Kanish Mukongo Fanikizi.